Tout de suite, ça roule.
Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Ça roule.
Et ça roule démarre aujourd'hui. Alors vous connaissez peut-être pas l'émission, vous êtes nombreux à nous rejoindre chaque semaine sur ce rendez-vous. Ça roule, c'est l'émission des usagers de la route. Par les usagers de la route, avec les usagers de la route, sauf un, il y en a un qui n'a pas le permis de conduire, celui qui m'accompagne aujourd'hui, j'ai nommé Gaspard Koenig Béliard de Vaubicourt. Bonjour Gaspard.
Bonjour Pierre Chasseret.
Rien que ça, ah ouais, c'est un nom à rallonge, mais on en avait besoin, c'est notre œil de celui qui n'a pas le permis. J'ai tout fait pour vous, pour essayer de vous le faire passer, mais
un
ça
jour.
Marche pas. Cette émission, ça roule, c'est tous les samedis, de 11h à 12h30, on vous retrouve avec l'association 40 millions d'automobilistes. Vous avez la parole et ici, on parle vrai. Sur Sud Radio, on parle vrai. On parle dans votre vie. On va aujourd'hui balayer les mesures de sécurité routière annoncées par Emmanuel Barbe. La semaine, c'était au micro en exclusivité sur Sud Radio. Il nous présentait les 18 mesures de sécurité routière qui vont être prises, notamment celles qui vous hérissent le poil, la baisse des limitations de vitesse.
Aïe, 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 aïe.
Et aussi les autres, des mesures sur l'alcoolémie, on en a très peu parlé. Le téléphone mobile, on en a très peu parlé parce que tout est paralysé un peu par cette vitesse où on ne parle que de ça. On va les passer en revue. On sera avec Michel Leguerne, président d'une association de victimes qu'on aide beaucoup, qu'on entend assez peu en France, et qui sera avec nous, l'association Mélodie Les Clés pour la Vie. On l'entend malheureusement peu et pourtant il a des choses à nous dire.
Et Jean-Baptiste Kioska qui va arriver.
Et Jean-Baptiste Kioska, maître Yoda, vous pouvez l'appeler tel si vous le souhaitez. En tout cas, lui, il contre-attaque. C'est maître Jean-Baptiste Kioska. C'est notre ami, c'est votre ami, c'est l'ami des automobilistes. Il sera là pour répondre à vos questions et pour passer lui aussi en revue ces mesures de sécurité routière. Ce sera dans quelques secondes. Et puis en deuxième heure, eh bien, on partira sur un autre sujet. Celui-là, il est sympa. C'est le joyeux la bonne année des automobilistes.
Le péage urbain.
C'est pas mal, ça.
Mais c'est quoi alors le péage urbain?
On va en parler. Le péage urbain, c'est une idée d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui nous a pondu une idée extraordinaire. La possibilité donnée à des communes bientôt de mettre en place des péages à l'entrée de vos villes. Est-ce qu'on marche sur la tête en France? 0826 300 300. On attend dès à présent tous vos appels pour intervenir dans cette émission. Et tout de suite, c'est le journal de Gaspard.
Fini les passe-droits, la privatisation du contrôle du stationnement a mis fin à une certaine tolérance pour plusieurs catégories d'automobilistes. Vous le savez, depuis le 1er janvier, les FPS, les forfaits post-stationnement, ont remplacé l'ancien PV à 17 euros et se sont multipliés sur les pare-brises des véhicules de la capitale, y compris sur certains véhicules qui étaient peu, voire pas du tout habitués à en recevoir, comme les policiers. Selon le Parisien, 200 d'entre eux auraient déjà été verbalisés depuis le début de l'année. Sur ces 200, plusieurs l'ont été alors qu'ils étaient en intervention à bord d'un véhicule banalisé, donc pas repérable pour les prestataires privés. La réaction ne s'est pas fait attendre puisqu'une centaine d'entre eux se sont rassemblés devant l'hôtel de ville pour contester ce nouveau mode de fonctionnement. Dans la réalité, les véhicules dispensés demeurent très restreints. Ce sont concernés les véhicules diplomatiques, les véhicules munis d'une carte de handicap visible sur le tableau de bord, les véhicules d'urgence et de secours et les voitures siglées police, gendarmerie ou vigipirate. Les véhicules des professionnels de santé titulaires de nouvelles cartes soins à domicile figurent également dans cette liste, mais pas ceux qui abordent un simple caducé sur le pare-brise. Les cartes professionnelles de police, d'avocats et de médecins en évidence devant le volant ne suffisent pas non plus à éviter le FPS. Pierre, je sens que la privatisation du stationnement n'a pas fini de faire parler.
Le forfait post-stationnement, c'est la possibilité donnée aux élus locaux de ne pas se faire réélire. Je vais vous dire, c'est plutôt pas mal finalement, parce que le maire qui vous met un forfait post-stationnement, alors il y en a 2 heures de stationnement, ça vous coûte 50 euros royal comme ça, pour se stationner en ville, vous croyez qu'il va être réélu lui? Mais c'est plutôt pas mal, moi je dis. On va les laisser se griller là-dessus, et puis les élus qui font le job et qui sont du côté de leur population, qui ont décidé de sauver leur cœur de ville, eh bien eux de leur côté, eh bien ils resteront en place. Mes amitiés à Natacha Bouchard, maire de Calais, qui elle a décidé de baisser le montant du forfait post-stationnement.
En France, la majeure partie des ralentisseurs ne serait pas aux normes. Vous le savez, l'épidémie de ralentisseurs ne fait que s'accentuer et rejoint dangereusement celle des radars qui approche de son apogée. L'occasion de vous rappeler qu'un tiers des ralentisseurs ne serait pas en règle, et c'est en tout cas ce que vous avez appris AutoPlus en 2013. Eh bien, figurez-vous que nos confrères ont réitéré l'expérience dont l'aboutissement se rapproche de celle justement de 2013. La conclusion de leur nouvelle enquête est sans appel. 37 7% des ralentisseurs ne seraient pas conformes. En ce qui concerne les dodanes et trapèzes, 4 sur 10 seraient illégaux. En plus, pour ce dispositif, les règles sont inscrites dans la loi. Un dodane doit faire 4 mètres de longueur et ne doit pas dépasser 10 cm de hauteur. Pour le trapèze, la partie plate doit faire entre 2,50 m et 4 m et les montées descentes entre 1 m et 1,40 m, le tout avec une hauteur maximale de 10 cm. Seuls les coussins berlinois et plateaux ne disposent pas de cadre légal, ce qui laisse une certaine liberté dont certains maires profitent, Pierre.
Oui, alors je vois que vous avez vraiment travaillé le dossier dodane. Vous êtes un expert en dodane, Gaspard. Alors mes amitiés, quelqu'un, je suis obligé de vous en parler, il s'appelle Thierry Modolo, il est extraordinaire Thierry. Il habite du côté de Toulon et il a pris son double décimètre et son pointeur laser et il est parti mesurer l'intégralité des dodanes du Var. Il l'a fait. Et il est arrivé, c'est grâce à lui qu'on a ce scandale des dodanes en France, parce qu'il a réussi à faire condamner des villes, notamment sur des véhicules qui ont été endommagés. Alors Thierry, continue ton boulot, tu as le soutien entier de Sarroul, de Sud Radio et de 40 millions d'automobilistes.
Et si le nombre de véhicules sur les routes baissait drastiquement d'ici 2030, c'est en tout cas la conclusion d'une étude faite par le cabinet spécialisé PwC, où on apprend notamment que les pays développés verront leur parc automobile réduire au profit de covoiturage et de l'autopartage. Toujours selon l'étude, 40% des kilomètres en Europe seront partagés, ce qui réduira fortement le parc automobile européen qui passerait de 280 à 200 millions de véhicules. Seule la Chine connaîtra une hausse de son parc, dépassant par la même occasion les États-Unis qui subiraient, comme son voisin européen, une baisse. Si on en croit cette étude, la voiture particulière diminuera fortement, mais les constructeurs pourront vendre plus pour recycler plus intensément un parc qui vieillirait plus vite. Dans la réalité, toutes ces informations seront potentiellement valable si et seulement si le covoiturage continue sa progression et que dans le même temps, les voitures autonomes accélèrent leur développement.
Bon, on va rigoler 30 secondes parce que alors, ça, c'est les études. Et puis alors, vous savez, quand vous voulez être sûr de vous tromper dans la vie, vous lancez des cabinets d'études, vous êtes sûr derrière que ça ne va pas marcher. Alors, moi, j'ai regardé les chiffres. Alors, il y a ceux qui parlent français, il y a ceux qui parlent pragmatique, il y a ceux qui parlent vrai. Et bien, moi, je vous parlais vrai, moi, un peu dans l'esprit Sud Radio. On va le faire très simple. On n'a jamais vendu autant de voitures neuves en France. Jamais on a eu un parc automobile aussi large en France. Maintenant, à part vous, Gaspard, tout le monde a une voiture quasiment dans son foyer. Eh bien, derrière, je crois que même si l'Eldorado des constructeurs se situe bien en Chine, parce que c'est là qu'on va vendre le plus de véhicules, et d'ailleurs, les véhicules sont imaginés pour le marché chinois, eh bien, derrière, il faut comprendre qu'en France, il y aura encore davantage de voitures. Parce que quand vous habitez à La Bourboule, quand vous habitez à Colomiers, quand vous habitez à Pau, Tarbes, ou même dans les petites banlieues derrière, eh bien, si vous n'avez pas de voiture, c'est simple, vous êtes mort.
Merci Pierre, c'est à vous.
Eh bien voilà, eh bien, fin du journal de Gaspard. Je vous propose de faire une petite pause. On va marquer une pause et on retrouve Maître Yoda, Maître Jean-Baptiste Yoska, qui a décidé de contre-attaquer toutes les mesures gouvernementales, notamment qui touchent à la liberté de circuler. Ces mesures dites de sécurité routière, c'est pour faire de la sécurité ou c'est pour faire de l'argent? 0826-300-300, j'attends vos réactions. Baisse des limitations de vitesse, êtes-vous d'accord, pas d'accord? Mesures de sécurité routière, quelle est votre bonne idée? On en parle, à tout de suite.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret.
Sud Radio, ça roule qu'avec 40 millions d'automobilistes, l'association, on est ensemble encore pour une bonne heure, un quart, pour balayer les mesures de sécurité routière proposées par Édouard Philippe en personne, le Premier ministre. Il en a parlé, vous avez certainement une opinion, le standard de l'association lui a débordé, explosé toute la semaine. Celui de Sud Radio, je suis sûr que ce matin, ça va faire un carton. 0826-300-300 pour raconter votre histoire. Nous sommes en studio avec Jean-Baptiste Yoska. Bonjour, maître Yoska.
Bonjour Pierre, comment ça va?
Bah écoutez, ça va plutôt pas mal, ça roule vous?
Impeccable.
Bon. Jean-Baptiste Yoska, auteur d'un livre récemment paru, Permis, pas permis, toutes les bonnes choses, à savoir quand on est automobiliste, aux éditions de l'Archipel, un livre plutôt rigolo, parce que vous avez alterné les conseils pratiques et puis les choses plutôt amusantes.
Alors, les vraies questions, est-ce qu'on a le droit de marcher en marche arrière sur l'autoroute ou est-ce qu'on a le droit d'aller chercher sa belle-mère qu'on a oubliée sur une aire d'autoroute, enfin voilà. Et puis il y a des vraies questions aussi. Est-ce que j'ai le droit de m'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute?
De me remaquiller.
De me remaquiller, de conduire en tongs, en talons hauts, au boutin. Enfin,
bon, alors les tongs en ce moment, c'est plutôt calme, hein, surtout avec le temps qu'il fait. Mes amitiés, si vous êtes français, puisqu'on est tous, on partage tous la même pluie ce matin, à peu près. En tout cas, voilà, ces mesures de sécurité routière, quand elles sont tombées, Jean-Baptiste Yoska, on s'y attendait à ce 80 km/h depuis maintenant quelques semaines. Quel est votre regard? Vous avez suivi l'émission Ça roule avec Emmanuel Barre. Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière la semaine dernière. Il en parlait, Gaspard, de ce 80
km/h. Oui, Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, vous l'avez dit, était l'invité exceptionnel de Saroule samedi dernier. Pendant une heure, nous avons pu lui poser des questions sur les nouvelles mesures qui vont être mises en place par le gouvernement. Baisse de la vitesse à 80 km/h, sanctions plus sévères pour le portable, mais aussi baisse du taux d'alcoolémie. Aucun sujet n'a été oublié et nous le décortiquons avec vous ce matin, Pierre. Alors, est-ce que ça vous a plu ?
Moi non, et vous Jean-Baptiste ?
Mais moi, avant de parler des mesures, on va parler d'un truc assez drôle. Le Premier ministre qui nous parle de mesures de sécurité routière, c'est le même qui, il y a un an, s'est fait arrêter, flasher en excès de vitesse de plus de 50.
Ouais, 155 au lieu de 110.
Permis de conduire suspendu immédiatement, entre 40 et 50. Permis de conduire suspendu immédiatement. Manifestement, il est passé devant une juridiction où il y a eu une ordonnance pénale ou un délégué du procureur. Enfin, il s'est passé quelque chose. Et c'est le même qui, un an après, nous dit, décontracté, écoutez, les Français conduisent trop vite, c'est abominable, on va prendre des mesures, on va taper sur la figure et tout. C'est cocasse.
Alors, on parle vitesse, hein, quand on passe baisse à 80 km/h, on parle vitesse. Et ce qui gêne beaucoup l'opinion, c'est la possibilité derrière d'avoir des flashs. Beaucoup d'automobilistes ont fait le lien, et à juste titre, entre la privatisation des radars d'un côté qui arrive à grands pas et qu'on va essayer d'empêcher avec l'association, et puis derrière, cette baisse des limitations de vitesse. Vous pensez qu'il y a un côté financier derrière ?
Non, sans blague. Pierre, attendez, vous êtes bien réveillé ou pas ? Vous savez à qui vous parlez ? Non, Pierre, à partir du moment où on baisse les vitesses et on met plus de radars automatiques, c'est pour faire du pognon ? Non mais je crois que c'est clair, il faut arrêter de s'imaginer que c'est pour le bien des Français. Parce que si on voulait vraiment le bien des Français, on ferait plein d'autres choses.
Alors j'ai lu quelque chose d'intéressant dans les mesures, c'est d'ailleurs dit clairement, il compte avec cette baisse des limitations de vitesse sur des rentrées d'argent dues à la radarothérapie. C'est quand même incroyable de l'assumer, ils disent oui, on va flasher du monde. On va faire du pognon, c'est plutôt vrai. Ils le disent. Et puis derrière, ils disent mais c'est pas grave, l'argent ira... En intégralité, le surplus ira en intégralité.
Alors le surplus de quoi aux... À partir d'où
ouais, c'est... Alors déjà
c'est
la ils disent mesure... que ça partira aux associations de victimes.
Voilà, le surplus partira à l'association de victimes. Mais le surplus de quoi par rapport à quoi? À partir de quelle barre? À partir de quel repère? De quels critères? Déjà, premièrement. Et puis, c'est bien, c'est un gouvernement qui assume, mais il va falloir assumer aussi éventuellement la grande des Français. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il lance une idée bizarre, une pompe à tirelire, enfin une pompe à fric, manifestement qui risque de mettre en grogne les Français, ils disent « Ah mais attendez, il n'y a aucun problème, hein, on assume. » Ouais, vous allez assumer jusqu'au bout. Je crois qu'arrive un moment où les Français vont en avoir vraiment marre et vont vous demander d'assumer vos politiques.
Est-ce que vous connaissez le phénomène des vases communicants, Gaspard ? Vous savez ce que c'est un vase communicant ? Est-ce que vous connaissez l'expression « déshabiller Paul pour habiller Jacques » ?
Oui.
Eh bien, je vous propose un truc plutôt rigolo, c'est quand vous dites le surplus de cet argent ira au fonds d'aide aux victimes. Bah oui, mais avant, c'était les caisses de l'État qui payaient. Donc ça veut dire que maintenant, ce sera contrebalancé. Donc si vous faites partir l'excédent au fonds d'aide aux victimes, c'est ce que vous perdez en moins dans votre budget.
Et justement, en parlant de flash, on a Patrice de Paris qui a composé le 0800 26 300 300. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Votre témoignage, votre question à nous apporter sur Sud Radio ce matin.
En fait, je suis, en tant que Français, je suis de plus en plus mal à l'aise. J'ai le sentiment d'être la proie de l'État. C'est-à-dire que je dois au quotidien maintenant me méfier des amendes de stationnement, de la vitesse à laquelle je roule. Moi, j'ai eu un accident très grave il y a un an. Mmh. J'ai été fauché par un ancien pompier. Je l'ai su au tribunal, hein, que c'est un ancien pompier qui avait bu une demi-bouteille de whisky. J'ai compté 3 tonneaux, mais vu la distance, j'ai dû au moins en faire 5. Je me suis retrouvé au tribunal d'Avallon et j'ai eu un énorme regret quand j'étais devant le magistrat parce que je me suis dit, mais j'aurais dû porter plainte aussi contre la société d'autoroute à qui sont d'ailleurs les grands amis de nos dirigeants politiques, à qui on a cédé des pans entiers de voies publiques, parce que les autoroutes avaient été déjà financées par nos aïeux. Et ces gens-là sont ingénieux pour installer des machines nous permettant de payer, mettre la carte bleue, etc., avec le système automatique qui se lève pour qu'on puisse circuler. Mais évidemment, si véritablement la sécurité routière était un enjeu, Je pense qu'on supprimerait déjà tous les alcools, toutes les ventes d'alcool dans les stations-service, les restaurants d'autoroute. Je pense qu'on obligerait aux sociétés d'autoroute à mettre des éthylotests, c'est-à-dire que vous soufflez, eh bien, si c'est pas vert, vous faites marche arrière, vous ne pouvez pas passer, vous pouvez pas circuler sur l'autoroute.
C'est plutôt une idée intéressante, ça. Au niveau des cabines d'autoroute, mettre un système d'éthylotest. Patrice, c'est plutôt intéressant, votre idée. Je pense qu'on va la garder, on va la soumettre derrière à Michel Leguerne, qui est président d'une association de victimes derrière. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. Patrice, 80 km/h, pour ou contre, on va faire vite.
Non, mais totalement contre. Rouler à 80 km/h dans un véhicule moderne.
Non, rouler en dessous.
Au volant,
non,
monsieur.
Non, attendez. Une limitation à 80 sous-entend qu'on vous demande de rouler en dessous de 80.
Oui, en plus, c'est ça. On s'endort et ça devient accidentogène. Comment vous allez doubler un camion qui lui sera limité à 80 si vous-même vous êtes limité à... Enfin, ça devient plus possible.
Et quid des zones à 70? On n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de panneaux 70. Quelle est la légitimité de laisser un panneau 70 sur une zone où vous êtes à 80 et en règle? Jean-Baptiste Yoska, comment vous réagissez aux propos de Patrice?
Non, mais je crois qu'il a entièrement raison, Patrice. Il a entièrement raison, mais il y a un truc qu'il n'a pas vu non plus. C'est que ça va coûter au bas mot 10 millions d'euros. Là aussi, je crois qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Enfin, vous me voyez un peu en colère ce matin, mais 10 millions d'euros, on est en période de crise, les Français sont exsangues, le travail est rare, les salaires sont peu chers. Et en plus, on nous dit, là aussi, on assume, ça va nous coûter 10 millions d'euros. Alors, attendez.
Ça vous a plu, ça, le j'assume d'Edouard Philippe, j'ai l'impression qu'il vous plaît beaucoup.
Non, mais moi, j'aime beaucoup les gens qui assument. Le seul problème, c'est qu'ils assument avec le pognon des autres. Moi, j'assume. Quand je dis j'assume, j'assume avec mon argent, pas avec l'argent des autres. Alors, attendons, entendons-nous bien, les 10 millions d'euros, ça va être quoi? C'est uniquement le prix des panneaux. Après, il va falloir rajouter la main-d'œuvre. Il va falloir rajouter des camions qui vont faire le transport. Il va falloir rajouter, bien évidemment, les panneaux qui se détaillent. Il va falloir rajouter... Vous allez voir que ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à une enveloppe entre 20 et 25 millions.
Et pendant ce temps-là, je vous rappelle que l'année 2016, on vient d'avoir les chiffres, a été une année record sur la dégradation des radars automatiques en France. C'est quand même assez incroyable, ça prouve le ras-le-bol. On est 14 ans, 15 ans après la pose du premier radar automatique, ils ne sont toujours pas acceptés en France. Mesures de sécurité routière, on parlait d'alcoolémie, on va revenir dessus. On marque une courte pause sur Sud Radio à 11h23 dans Ça roule. C'est votre émission, je vous le rappelle. On attend votre témoignage au 0826 300 300.
Et on aura Guy en retour de pub, Pierre.
Et Guy sera avec nous et Michel Leguerne, le président de l'association Mélodie, les clés pour la vie. On parle sécurité routière dans Ça roule et on fait entendre la grogne des automobilistes.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Avec Gaspard Koenig, Béliard, de Vaubicourt, qui n'a pas le permis. C'est la honte de Ça roule. Mais qu'est-ce que je l'aime, Gaspard. Et qu'est-ce que ça fait du bien qu'il soit là. Allez, Jean-Baptiste Yoska en studio avec nous. Maître Jean-Baptiste Yoska. Alors lui, il l'a permis. Puis là, c'est 12 points, je suis prêt à le parier.
Oh, ça me ferait mal d'en perdre un.
Avocat droit routier, il ne manquerait plus que ça, qu'il n'ait plus le permis, qu'il soit... et que vous le soyez fait sucré, ça me ferait rire quand même. Mais bon.
Impossible.
Vous pouvez plaider pour vous.
Ah, bien sûr. Bien sûr, mais alors tiens, ça c'est une vraie question. On plaide pour soi, mais on plaide sans robe.
D'accord.
Et alors un avocat qui est à la barre du tribunal sans robe, ben on a l'impression d'être tout nu. Mais oui, parce que la
faut
robe,
mettre une jupe.
Non, la robe c'est une vraie armure. Et ça confère un certain nombre de droits, de devoirs aussi, mais de droits. Le droit de plaider le temps qu'on veut, le droit de rester dans le dossier, mais de pouvoir dire ce qu'on veut, l'immunité de la robe. Et le fait d'être sans robe à la barre d'un tribunal, ben c'est toujours un peu compliqué.
Bon, ben moi, je préfère vous voir en robe que tout nu.
on change de sujet, mais on accueille Guy qui a composé le 0826-300-300.
On les décortique quand même ce matin, toutes les bonjour, mesures de sécurité
bonjour,
routière.
Bonjour.
Je vous écoute, vous Allô avez une question à poser à Pierre Chasseret
Oui. Je voulais savoir, pour le corps diplomatique, est-ce qu'il est soumis aux mêmes contrôles, aux mêmes amendes? Est-ce que le corps diplomatique a des problèmes s'il se stationne mal,
S'il va dépasser les 80 km/h et les limitations de vitesse en général et tous les délits routiers, est-ce que le corps diplomatique est soumis au même régime que le citoyen français lambda ?
Alors Guy, je vais résumer votre question à Jean-Baptiste Yoska, avocat droit routier. Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne en France ou est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut si on est bien protégé ?
Mais non, vous doutez bien que le corps diplomatique il est régi par des règles qui sont différentes. Pour la bonne et simple raison qu'il faut absolument les mettre à l'abri d'un contrôle volontaire, à l'abri éventuellement d'un contrôle décidé par les forces de police dans un autre pays. Donc, normalement, ils doivent, par décence et volonté, conduire correctement et respecter les règles. En revanche, le corps diplomatique, on peut pas lui saisir sa voiture parce que à l'intérieur, il peut y avoir une valise diplomatique. Hein. Vous savez que la valise diplomatique, c'est pas forcément une valise, ça peut être une enveloppe. Donc dans toutes les voitures d'ambassade, non, ils sont régis par des règles différentes et ils ne peuvent pas être arrêtés comme ça pour n'importe quelle raison.
Vous habitez où, Guy ?
Vers Pontoise.
D'accord, donc vous êtes en région parisienne
parisienne, oui.
Voilà, où on écoute Sud Radio 99.9. Oui, allez-y Guy, dites-moi.
C'est vrai ce bruit qui court, enfin qui a l'air d'être réel, le Premier ministre, celui qui vient et qui ose dire j'assume ce qui dans son langage veut dire je vous emmerde et j'en suis fier. C'est vrai qu'il y a quelques années, il s'est fait piquer à 150 km/h.
Mais mon cher Guy, vous avez raté le début de Ça roule, mais c'est pas grave. Jean-Baptiste Yoska, maître Jean-Baptiste Yoska, ça a été sa première réflexion en ouverture de sujet. Il nous a bien rappelé que ça le faisait bondir que Monsieur J'assume, justement, vienne assumer une baisse à 80 km/h quand lui s'est fait prendre, en effet, près du Havre, à 155 au lieu de 110 km/h en vitesse maximale autorisée. Oui, ce n'est pas une rumeur, Guy. C'est la pure vérité.
Eh ben, heureusement que vous êtes là. Il y a un petit flambeau, un petit îlot de liberté pour pouvoir s'exprimer.
Ouais, ben c'est le but de cette émission. C'est le but de Ça roule, c'est de vous laisser la parole et d'oser dire la vérité et de décrypter un petit peu toutes les choses. Par exemple, tiens, la semaine dernière, j'en parlais avec Emmanuel Barbe et il disait au micro que le Danemark ne comptait pas passer à 90 km/h. Je rappelle que Danemark est un pays qui roule à 80 en vitesse maximale autorisée. Et puis, ils ont décidé de se lancer dans une expérimentation du 90 km/h pour harmoniser les vitesses à l'échelle européenne. Emmanuel Barbe nous disait de source sûre que le pays ne passerait pas à 90. Petit problème, nous aussi, on a appelé le Danemark et ils vont bel et bien passer à 90 dans moins de 3 ans puisqu'ils ont juste prolongé l'expérimentation, le temps de mettre les routes à niveau parce qu'on entretient les routes au Danemark. Voilà votre réponse, Guy. Pour ou contre le 80 ?
Contre.
Voilà. Et maintenant, je vous propose, déjà, je veux vous remercier, je veux vous souhaiter un bon week-end, Guy, à l'écoute de Sud
Merci
Radio.
Aussi.
Et puis maintenant, on va partir du côté de la Bretagne. Je vous propose d'accueillir un ami, Michel Le Guerne. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, Pierre. Bonjour à Gaspard, bien sûr, et à votre invité.
Et à Jean-Baptiste Yoska, maître Yoska, qui est avec nous. Michel Le Guerne, j'ai souhaité que vous soyez avec nous parce qu'on a parlé que du 80 km/h. C'est vrai qu'une telle mesure cristallise un peu l'opinion publique. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en tant qu'association de victimes de la route. Et puis, au-delà de ça, je voudrais vous poser une question très claire. Les mesures alcoolémie, moi, elles m'ont fait un peu bondir. Suppression de l'éthylotest dans les voitures, je ne trouve pas que ce soit un signal fantastique non plus. Et puis derrière, pas grand-chose. Plutôt le vide intersidéral sur un dossier majeur d'accidentalité. Michel Le Guerne, les mesures Édouard Philippe, vous en pensez quoi ?
Bon, rapidement sur la vitesse, l'éventuelle diminution de vitesse. Moi, j'ai consulté tous les adhérents de l'association, bien sûr. On est opposé à une diminution générale, je dis, et on estime que c'est au cas par cas, c'est les mieux placés pour considérer qu'une route est dangereuse, ça reste quand même les responsables de cette route, c'est-à-dire les conseils départementaux et éventuellement la préfecture, parce que c'est eux qui connaissent le réseau routier de leur secteur. Nous, je vais prendre autour de chez moi, c'est 70 partout. On peut faire des dizaines de kilomètres, on est à 70 partout. Quand ça a été mis en place, Personne n'a rien dit parce que justement la route est accidentogène, il y a des carrefours, il y a des habitations. Tout le monde a accepté ce 70. Maintenant, il y a des endroits, même chez nous en Bretagne quand même, il y en a quelques-unes, des lignes droites, sans carrefour, sans maison d'habitation, je vois pas l'intérêt de rouler à 80.
Mais vous avez entièrement raison, Yoska au micro. Vous avez entièrement raison.
J'ai reconnu la voix.
Oui, il faut pas être dogmatique. C'est ça que j'aime dans votre discours. Il faut pas élargir à l'ensemble de la France parce que c'est une norme et on va faire ça comme ça. Cas par cas, il faut être intelligent, se dire voilà, cette route, elle est plus accidentogène, on va réduire la vitesse. Celle-ci, il n'y a jamais eu d'accident. En conséquence de quoi, on pourrait même éventuellement remonter la vitesse pour créer un équilibre.
De toute façon, si on raisonnait comme ça, les Français, c'est pas des veaux non plus, ils accepteraient la situation, ils connaissent les points dangereux, les Français. Leur dit, ben là, il n'y a plus le droit de rouler à 90, vous allez rouler à 70, ben ils vont l'accepter parce qu'ils savent que la route est dangereuse. Et est-ce qu'on a réellement besoin d'un panneau, dans un virage un peu dangereux, est-ce qu'on a réellement besoin d'un panneau qui va nous dire qu'il faut le passer à 60 parce qu'il est dangereux? On n'est pas complètement idiots. Je parle pour ceux qui ont le permis, parce que Gaspard l'a pas. Parce que j'ai cru comprendre. On arrive sur un rond-point, on va pas rester à 90. On sait très bien qu'il faut qu'on descende la vitesse parce que le rond-point ne passera pas. On n'est pas complètement idiot non plus.
Mais d'autant plus que le code de la route dit moduler sa vitesse en fonction des endroits. Donc bien évidemment.
Voilà, tout à fait. On est responsable de la vitesse en fonction des conditions atmosphériques, des conditions topographiques. Exactement. Et tout ça. C'est le code de la route le prévoit à la limite. Il n'y a pas besoin de venir imposer des normes qui sont déjà, pour la plupart, prévues.
Alors,
juste avant de vous reprendre, Michel, sur les mesures alcoolémie, je voudrais qu'on parte et qu'on écoute Harry au standard.
Oui, Gaspard. Harry a composé le 0826-300-300. Bonjour Harry.
Bonjour Pierre, c'est Fidel de la Fidel Radio. Et bonjour à M. Toscan aussi.
Yoska.
Pierre, je vais pas te long, mais je vais essayer de m'expliquer. Moi, il y a une chose qui m'exaspère vraiment, c'est cette affaire de position que l'État français, je vous dirais, franchement, et le gouvernement, se décide de prendre contre les automobilistes. Et aussi la maire de Paris. Ceci dit, en ce qui concerne vous, Pierre, pourquoi vous décidez pas, moi et les autres, les automobilistes, de se manifester à Paris et en France, partout dans la France, parce que c'est pas possible. C'est impossible d'accepter ces démarches. De toute façon, on peut plus. Pierre, il prévoit encore, en tant que Français, les Français de ce pays qui disaient justement de l'argent pour entrer dans leur propre ville.
Harry, j'entends votre colère et je vais vous répondre parce que vous posiez aussi une question à notre standardiste sur l'émission Ça roule sur Sud Radio. Vous lui disiez, mais pourquoi il n'existe pas une association d'automobilistes en France qui milite contre ces règles? Mais dites-moi Harry, elle s'appelle Association 40 millions d'automobilistes et je la connais bien, je la dirige. Donc si je suis au micro ce matin, c'est qu'elle existe. Donc elle existe, elle s'appelle l'Association 40 millions d'automobilistes. Il y en a une seule en France reconnue d'intérêt général. Et maintenant je vais vous répondre à votre deuxième question, pourquoi je ne lance pas avec mon président une grande manifestation? Eh bien déjà parce qu'on va le faire. Déjà c'est en route et on l'a fait pas seul, on l'a fait avec nos copains de la Fédération française des motards en colère. Des rassemblements vont être prévus partout en France. Mais pour être informé de cela, il faut écouter Ça roule sur Sud Radio. Ça, vous le faites. Mais il faut aussi s'abonner sur le site internet gratuitement à la newsletter de 40 millions d'automobilistes. Aussi, vous serez au courant, Harry, de tout ce qui va se passer en France et de toutes les mobilisations à venir. J'ai répondu à votre question ?
C'est ça, c'est très très bien. Mais de toute façon, moi je suis partant. Hein. Moi je participais de toute façon à Paris et ailleurs parce que c'est inadmissible.
Entend votre grogne, Harry, et date est prise. Allez faire un tour sur le site internet ou appelez l'association et on vous mettra dans les fichiers. Vous avez votre réponse. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Michel Legarde, je reviens avec vous. Oui. Mesures alcoolémie d'Édouard Philippe, Premier ministre, et d'Emmanuel Macron, président de la République. Il les a validées, ces mesures, ces 18 mesures. Vous en pensez quoi?
Je ne pense pas grand-chose.
Il n'y a rien.
Il n'y a aucune avancée. Il n'y a qu'un truc, et c'est négatif. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Pierre. C'est de supprimer l'obligation de détenir un éthylo. Alors, je trouve ça complètement... Je vais pousser peut-être un peu, mais c'est scandaleux, parce que les jeunes... Nous, on est plus axés sur l'alcoolémie des jeunes, mais les jeunes, ils vont s'alcooliser, ils savent pas combien ils ont bu. Donc, on leur conseille, on envoie toute l'année, on leur conseille, ben, vous restez dormir dans la voiture, vous attendez, vous récupérez, et avant de partir, vous vous autotestez. Pour vous autotester, vous avez un éthylo dans la voiture, ben c'est fini. C'est fini parce que faut pas croire, les jeunes, ils achèteront pas. Hein. On peut dire installer des rayons d'éthylo à côté du rayon alcool. Moi, ça me fait rigoler. Hein. Les mecs, s'ils vont pour acheter du whisky, ils vont pas prendre au passage un éthylo. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. Ça, c'est une vaste fumisterie.
Alors, mesure alcoolémie.
Ça m'agace sérieusement. Mesure alcoolémie, rien du tout. Voilà. Et puis, dans leurs chiffres, parce que j'ai quand même bien étudié et bien regardé leurs chiffres. Je vais prendre déjà les mesures concernant l'alcoolémie. Elles arrivent déjà en... Alors c'est la mesure, que je vous dise pas de bêtises, 11 sur 18. Donc on voit bien que c'est loin d'être une priorité. Alors qu'on nous dit que c'est la deuxième cause d'accident, déjà pour le chiffre, moi je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas la deuxième, c'est la première.
Bien sûr.
Et si on va voir la mesure 12... On nous dit 29% des accidents mortels 2016, hein, origine alcool au volant, 22% liés à l'usage de stup. Donc 22 plus 29, on n'est pas à 33. Hein. On est, moi je compte bêtement, mais c'est comme ça, quoi. On est à plus de 50%. Donc
non, parce que vous avez des personnes qui conduisent à la fois alcoolisées et en stup.
Mais en tout cas,
oui, c'est pour oui, ça que oui, ça se
oui, mais je suis d'accord, mais dans oui. les statistiques qui sont faites, c'est-à-dire dans les bacs, on en prend un. Soit on prend l'alcool, soit on prend les stupéfiants. L'alcool, on le prend qu'au-dessus de 0,8 dans la case délictuelle, mais dans leurs chiffres ici, donc ne peuvent sortir théoriquement que ce qui est donné par les bacs.
Eh oui, il a raison, Michel, parce que là, on découpe
les contraventionnels.
On découpe le gâteau en plus. On prend 100% des accidents et on essaye de faire des parts. Donc, ouais. Donc là-dessus, dites-moi, Jean-Baptiste Yoska, vous êtes avocat droit routier. Mesure alcoolémie, vous attendiez peut-être aussi des choses là-dessus.
Ben écoutez, Pierre, vous allez voir, je suis très embêté sur l'alcool. Je suis très très embêté sur l'alcool parce que vous avez des pays où l'alcool c'est zéro. Et au oui. moins les choses sont claires.
Oui.
Comme
Moi,
la Russie.
Avec vous, là.
Comme la Russie. Et c'est pas parce que je défends justement des automobilistes qui se sont fait arrêter et qui étaient alcoolisés que je vais être permissif sur l'alcool. À partir du moment où le taux il est à zéro, les choses sont claires. Et que là, c'est très très compliqué de dire 0,25, 0,40. À partir de quand vous allez pouvoir dire, ouais, j'étais à 0,40, je suis à 0,25, j'ai bu qu'une bière, je suis en dessous, je suis au-dessus. C'est très compliqué.
C'est impossible à déterminer.
Ah, premièrement. C'est pour ça que je rebondis sur l'éthylotest dans la voiture. L'éthylotest dans la voiture, ça a été l'Arlésienne. On nous en rabat les oreilles depuis à peu près 20 ans. Vous savez, Pierre, c'est ce que personne ne sait. L'éthylotest dans la voiture, il a été déjà légiféré.
Oh là oui.
Il a été légiféré, mais il n'y a pas d'écrit d'application. C'était il y a à peu près 15 ans. Entre-temps, il est passé deux présidentielles et au moment où Sarkozy s'est présenté à la présidentielle contre Hollande, il nous l'a remis en route. Il nous a dit « Attention, je viens d'avoir une idée géniale, l'éthylotest dans la voiture !» Et en fait, ça servait simplement à faire un décret d'application pour mettre en place la mesure. Comme par hasard, cette loi a été retirée de Légifrance au moment, le jour où il l'a prévu, où il l'a donné aux médias. Ça a été retiré sur Légifrance, qui est la bande de données de toutes les lois en France, et ça a été reproposé, c'est pas passé bien évidemment. Et puis là, on nous en reparle. Et puis, dernière petite chose sur l'éthylotest. Je suis pas favorable à l'éthylotest, je vais vous dire pourquoi, parce que ça va être un moyen pour certaines personnes de très mauvaise foi de pouvoir se battre. Je suis arrêté au volant de ma voiture. J'ai un éthylotest usagé qui est à zéro dans ma voiture. Je suis alcoolisé. Je vais dire aux policiers, regardez, juste avant de partir, j'ai soufflé. J'ai soufflé dans un éthylotest qui est usagé, je le prouve, mais qui est à zéro. Donc en conséquence de quoi, au moment où je suis parti, j'ai pris ma voiture, j'avais le droit de conduire. Et là, ça va être compliqué pour les forces de police, ça va être compliqué en matière de preuves. Vous voyez, l'éthylotest, c'est vraiment... Il faut être très partagé sur cette mesure. Et comme l'alcool, il faut être très partagé.
Si ce n'est qu'il permet au moins une communication autour de cela et que maintenant, on n'a absolument pas rien. Pourquoi ? On n'a plus rien. On va conclure sur ce sujet. Malheureusement, le temps passe très vite, hein, Michel Le Guerne.
Mais parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. L'éthylo dans la voiture, moi, je suis désolé. C'était une nécessité. Ça verrouille aussi la défense utilisé par certains avocats au tribunal quand il y a un mort sur la route. C'est facile de défendre un mec qui va être complètement alcoolisé en disant ben, il a cherché partout le moyen de contrôler son alcoolémie, il n'a pas trouvé parce qu'il n'y en a pas dans les débits de boissons, là on ne leur impose toujours pas. Il n'a trouvé nulle part, alors il a estimé qu'il devait partir. Là maintenant, ça verrouille. Le mec qui doit avoir un éthylo dans sa bagnole, on lui dit, désolé, mais vous deviez en avoir un.
Mais c'était le cas il y a 15 ans. Pourquoi ils ont retiré la loi à ce moment-là? C'était le cas il y a 15 ans.
Je suis pas un politique, moi.
Moi non plus, heureusement. C'est ce qui nous sauve.
les lobbies alcooliers, ils sont là. Contrairement à ce qu'on nous dit, ils existent toujours. Ils sont toujours en train de foutre le bordel parce que c'est eux qui foutent la zone. On dira ce qu'on voudra. Comme l'antidémarrage, moi, je suis à fond pour. Alors qu'on l'impose déjà dans toutes les auto-écoles, qu'on soumette à chaque leçon de conduite tous les élèves au dépistage, on verra si le samedi matin, par exemple, ils peuvent tous prendre leur leçon de conduite parce qu'ils ne sont pas décuités de la veille.
En tout cas, le coup de gueule de Michel Le Guerne, président de l'association Mélodie, Les Clés pour la Vie, c'était sur Sud Radio, dans Ça Roule. Vous êtes bien dans votre émission, c'est la preuve, 0826 300 300. Et on revient pour vous présenter plein de choses. On va partir chez Mitsubishi, on va rencontrer aussi Philippe Monneret avec le premier feu de freinage connecté pour moto. Tiens, ça aussi, c'est de la sécurité. A tout de suite dans Ça Roule sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Ça roule.
Ça roule. Ça roule. Pierre Chasseret.
11h47 sur Sud Radio, ça roule, votre émission. L'émission qui traite de tout ce qui se passe sur la route, de toutes les mesures. Et vous avez vu, on essaye de le faire avec le sourire, on essaye de le faire avec la bonne humeur aussi. Et cette émission, c'est avant tout la vôtre. C'est pour ça que je suis là. Je suis le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes pour vous venir en aide. C'est mon boulot, c'est mon métier et j'essaye de vous venir en aide aussi sur Sud Radio. On va partir maintenant du côté d'une marque de voiture qui lance, on va dire, un grand tour de France. On va partir du côté de chez Mitsubishi avec Patrick Gourvennec. Bonjour Monsieur Gourvennec.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de Mitsubishi Motors France et vous lancez donc ce grand Tour de France. Alors allez, je vais vous laisser la prime d'expliquer ce Tour de France. C'est quoi ce Tour de France de 12 villes que vous lancez?
Écoutez, d'abord, c'est de présenter une solution technique de déplacement urbain et semi-urbain avec plug-in hybride. Alors ça peut paraître un peu des fois... difficile à comprendre. Alors,
le plug-in, allez, on y va, on explique, le plug-in.
Alors, c'est en clair, c'est une voiture qui fonctionne à l'électrique, mais qui peut aussi, avec un moteur thermique, rouler en dehors des villes. Donc, ça permet une double utilisation, quoi. Une utilisation strictement urbaine, avec une utilisation 100% électrique, encore une fois. Hein. Vous la branchez chez vous la branchez aussi sur des bornes de recharge en ville, etc. Et puis, lorsque vous avez envie de sortir de la ville, eh bien, vous pouvez rouler avec un moteur thermique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème d'autonomie.
C'est l'avenir, ça, le plug-in? J'ai l'impression, hein, j'en entends beaucoup parler quand même, hein, du plug-in électrique. Mais... j'ai l'impression que ça... Hein. C'est vraiment le véhicule du demain proche, peut-être, pour servir un peu d'alternative avec les énergies du futur.
C'est exactement ça. C'est une énergie qui permet, en tout cas, c'est une solution technique qui permet de faire le lien entre la voiture aujourd'hui que vous connaissez avec des moteurs thermiques et puis ce qui arrivera peut-être dans 5, 10, 15 ans avec certainement d'autres solutions peut-être plus électriques avec les capacités de batterie qui ont forcément fortement évolué.
Mais parce que ça, soyons clairs, hein, c'est vraiment le point vraiment qui heurte un peu encore quelques automobilistes. C'est cette autonomie qui n'est peut-être, allez, on va le dire, pas encore suffisante pour en faire le premier véhicule du foyer dans tous les cas.
C'est ça, c'est une solution qui mérite encore d'être développée et de continuer à s'améliorer, mais c'est, disons, une technologie qui permet justement de rassurer le client. C'est-à-dire qu'en clair, vous avez n'avez pas la préoccupation, on va dire quasiment minute par minute, de regarder votre charge de batterie, puisque de toute façon, vous avez toujours cette alternative du moteur thermique qui vous prend le relais, si toutefois, vous êtes à court de charge.
Alors, c'est l'Outlander 2017 hein, que vous faites tourner. Absolument. Sur les routes de France, de chez Mitsubishi, bien évidemment, tant qu'à faire, vous allez présenter votre marque.
Oui, bien sûr.
Allez, vous me faites un petit peu la liste sous les yeux de toutes les grandes villes dans lesquelles vous allez passer pour présenter votre véhicule.
Alors, nous avons fait Paris, Lille, Reims, nous sommes aujourd'hui à Nancy, nous sommes demain à Lyon, ensuite nous descendons sur Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'aller dans les centres urbains et de présenter cette solution, parce qu'elle est a priori plus destinée, a priori, hein, en tout cas sur des populations, des consommateurs qui aimeraient justement utiliser ces voitures-là sans les contraintes à venir que l'on commence à comprendre sur les déplacements urbains. Et puis, évidemment, pour pouvoir sortir, et là, c'est une solution, encore une fois, je insiste, mais c'est vraiment une solution de pont entre les deux technologies ou les deux futurs.
Eh bien, l'Outlander 2017 avec Patrick Gourvernec, vous êtes le président de Mitsubishi Motors France, et je vous remercie d'avoir été Ça roule avec nous ce matin. Vous pouvez découvrir l'Outlander sur Internet, évidemment, et aller le découvrir dans toutes les grandes villes de France à l'occasion de ce grand Tour de France que vous organisez. Je trouve que c'est une belle idée de communication. Bravo à vous d'aller le présenter aux usagers de la route. Merci d'avoir été avec nous et bon week-end.
Et puis bravo à vous aussi pour votre émission, c'est très dynamique et ça fait plaisir.
Venant du président de Mitsubishi, je ne peux que vous dire un grand merci de la part de toute l'équipe et de Sud Radio. Et on va aller faire un petit tour, Gaspard, avec Philippe Monneret, ambassadeur d'un projet assez spécial. Bonjour Philippe Monneret, votre nom sonne évidemment très fort quand on est automobiliste et qu'on aime la voiture et la passion automobile. Vous allez nous présenter ce matin dans Ça roule le premier feu de freinage connecté pour moto. Et ça me fait du bien de parler un petit peu à tous nos amis motards, mes amitiés à la Fédération Française des Motards en Colère d'ailleurs, qui participent avec nous, avec 40 millions d'automobilistes, à des grandes manifestations sur les routes de France dans les jours, semaines et mois à venir. Parlez-nous de ce feu connecté, Philippe Monneret.
Ben vous savez, à moto, on a toujours besoin de sécurité quand même. Hein. C'est là-dessus où on était un petit peu en retard. Donc on a trouvé le système airbag. Et puis là, il y a une super invention qui a été faite par une start-up française qui a créé Cosmo. C'est un feu. Alors moi, quand ils m'ont présenté, c'était le feu à mettre sur un casque. J'ai tout de suite fait attention en disant attention, on n'aime pas trop mettre quelque chose sur le casque. Hein. Vous savez, ça peut. Mais là, c'est tellement bien fait. C'est un petit aimant. Vous mettez votre feu et le feu il se déclenche quand on freine, il peut rester fixe, vous en servez par l'iPhone et puis surtout, c'est ça qui fait la différence, c'est que si jamais vous avez un problème, une chute tout seul, ça appelle les secours et ça vous géolocalise.
Ça c'est génial, parce que ça prouve qu'il y existe tout un tas de solutions. Alors il y a eu le Grand Prix de l'innovation de la sécurité routière qui avait été lancé par Emmanuel Barbe, le délégué interministériel, voilà quelque chose que j'avais beaucoup aimé, avec une application qui s'appelait Liberty Rider, qui aidait un peu tous les motards justement à prévenir un peu des accidents de la route et à faire intervenir les services de secours le plus vite possible. Et bien là je trouve que ce premier feu de freinage connecté pour moto apporte une réelle sécurité.
Et vous parlez de prix, ils ont eu un prix à Las Vegas hein, pour ça. Ils vont le développer pour le vélo aussi. Et puis, vous parlez aussi de sécurité routière. Alors, la sécurité routière, ils aiment bien sûr, travailler là-dessus. Mais quand vous voyez comment sont éclairées les routes maintenant en dehors des agglomérations, c'est cata. Hein. On n'est pas visible. Donc, en moto, c'est important d'être vu, surtout de l'arrière, on va dire, par rapport aux autres. Quand il pleut, moi, avec mon Cosmo derrière mon casque, je me sens vraiment plus en sécurité.
Dites-moi, Philippe, on va parler un petit peu de votre expérience, votre expertise, parce qu'on peut en parler. Alors, je vais essayer de la résumer. Parce que si je ne la résume pas, on y est encore après-demain. La légende voudrait que vous ayez commencé la moto à 6 ans.
Oui, non mais maintenant, vous savez, dans mon école, ils commencent tous à 6 ans, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient à 6 ans. Mais mon père était déjà pilote de moto, mon père était un pionnier. Donc il m'a mis, on n'avait pas le choix dans la famille, il faisait faire de la moto. Voilà. Mais après, j'ai mis longtemps à m'apercevoir que c'était une réelle passion.
Recordman voilà. Des 24 heures, Peugeot 104.
Non, ça c'était un très bon souvenir à Montlhéry pour lancer le Peugeot 104. Vous voyez, c'était. Et voilà, c'est que des bons souvenirs.
Quel est votre plus joli souvenir à moto sur une course ou même petit plus peut-être que c'est pas en course.
C'est ma victoire en 91 avec la première victoire pour Yamaha en endurance aux 24 heures du Mans avec mes amis. Bruno Bonneville et Rachel Nicot, ça c'était un super souvenir. Mais je pense que le meilleur souvenir qui reste à graver, c'est quand même le Peugeot 104 en 71 avec mon père, parce que ça c'est un souvenir de môme. Et en plus, c'était quelque chose d'incroyable puisque à cette époque je voulais devenir pilote, donc je rêvais. Je me prenais pour un pilote, j'en étais pas un, mais je me prenais pour un pilote.
Oui, parce que votre papa, il a aussi quand même un petit palmarès, tout petit, hein, voilà. À peu près. C'est l'encyclopédie universaliste en 57 volumes à peu près, voilà, pour le palmarès.
Ça fait 90 ans qu'on est dans la moto. C'est pour ça que des projets comme Cosmo, on est attaché, parce que développer la sécurité du motard et montrer que les motards sont très attachés à leur sécurité et que c'est, contrairement à ce qu'on dit, des spécialistes de la sécurité routière, le motard, parce qu'il fait des stages de perfectionnement, il se soucie de l'adhérence, il regarde la météo, etc. Et souvent, on l'accuse à tort, et pourtant c'est quelqu'un qui fait très attention et qui est très prudent.
Eh bien, merci voilà. En tout cas de nous avoir présenté, Philippe. C'était un honneur de vous avoir dans Ça roule sur Sud Radio. Cosmo, le premier feu de freinage connecté. Attention pour moto, bien sûr, scooter et vélo. Cosmo Connected, d'ailleurs. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Internet, cosmoconnected.com. Et vous allez forcément le trouver. Vous tapez Philippe Monneret. Bon, alors si vous tapez Philippe Monneret, vous allez en trouver des choses. Hein. Mais au moins, vous allez voir des belles vidéos. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au plaisir de vous avoir assis près de nous en studio pour faire un sujet, tiens, au moment des 24 heures moto, pourquoi pas, on pourrait faire ça. Ça serait une belle idée, je pense que ça qui vous ferait plaisir à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve dans quelques minutes, Gaspard, pour revenir sur les péages urbains.
Aïe,
ça va coincer. 0826 300 300. Êtes-vous prêt dans votre ville à accepter un péage pour entrer dans la ville avec votre voiture? Mouton, ami automobiliste, ami vache à lait, est-ce que vous considérez que c'est une mesure scandaleuse? Appelez-nous 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, ça roule. Pierre Chasseret, 11h, midi 30.
Eh oui, jusqu'à 12h30, on est ensemble dans Ça roule, votre émission. L'émission qui parle de tous ceux qui empruntent la route. C'est-à-dire les Français, quoi, en fait. C'est-à-dire tous ceux qui habitent dans ce joli pays qu'est la France, la métropole et puis l'outre-mer aussi. Eh bien, vous êtes invités à venir nous rejoindre. C'est une grande table avec des micros partout et on est tous autour, mais vous êtes aussi là parce que par la magie du téléphone et du téléphone cellulaire, vous pouvez composer le 0826 300 300 et venir vous exprimer librement, dire tout ce que vous pensez des mesures, venir en plaisanter avec nous, parce que rire, ça fait du bien quand même, parce que je vais vous en annoncer une bonne. On va en parler avec Maître Jean-Baptiste Yoska, mon ami, mais aussi l'ami des automobilistes, le péage urbain. Non mais, le péage urbain. Vous habitez en ville, vous devriez passer à peu près à travers. Mais si vous habitez un peu en dehors et que vous avez besoin d'entrer dans la grande ville, un péage, bam, un peu comme les Anglais, sauf que les Anglais, ils gagnent 40% de plus que nous sur les salaires. Boum, le péage urbain. Ça vous dit un péage urbain? Venez en parler au 0826 300 300 dans Sa roule. Ce péage urbain, je suppose, Jean-Baptiste Yoska, Maître Yoska, avocat de droit routier, qui vous a laissé sans voix cette annonce d'Elisabeth Borne, ministre des Transports. Elle nous a habitués à mieux quand même.
J'en parlais avec un ami journaliste il y a 3 jours qui me disait, oui, bon, tout ça, c'est pas très grave, c'est que 5 euros par jour, globalement 1200 euros par an. Et je lui disais, mais vous êtes un grand bourgeois, vous vivez dans Paris, vous ne produisez rien ou si peu. Il ne faut pas oublier que c'est Paris, c'est la province, ou en tout cas c'est l'extérieur du périph' qui fait vivre Paris. Et que c'est les gens qui viennent à l'intérieur de Paris qui font vivre Paris, qui apportent les marchandises. Et là, en l'occurrence, il me disait, oui, enfin, je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi il y a autant de tumulte autour de cette mesure. Mais il plaisante. Il faut penser aux gens qui travaillent et pour lesquels 1200 euros, c'est beaucoup d'argent. 1200 euros, c'est quasiment un SMIC. Et en train de nous expliquer que à cause de ce péage, il y a un SMIC par an qui va disparaître. C'est honteux.
Eh ben, on va essayer de le joindre, cet ami, je vous promets. On va essayer de le joindre. Et on va partir du côté du standard, Gaspard, parce que vous êtes nombreux déjà à prendre le combiné du téléphone pour faire le 0826 300 300 et venir nous parler de cette idée de péage urbain sur le modèle de Londres. Et on parlera de Milan aussi, parce que la milanaise, vous la connaissez bien, Maître Yoska, et on va remettre un petit peu l'église au milieu du village.
Et on accueille Marcelo qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Marcelo.
Bonjour.
Vous voulez réagir sur les péages urbains? Une question, une réaction?
Moi, une réaction, c'est que actuellement, moi, je suis donc en reconversion militaire, donc je touche pas des 1000 et des 100. Et mettre un péage urbain, ça peut être intéressant si, par exemple, les villes enlèvent, par exemple, tout ce qui est les places payantes.
Ouais.
Mais je ne pense pas que ça ne sera fait. Donc en fait, ça va plus être de l'ordre, je pense, de renflouer les caisses de l'État ou de renflouer leurs poches carrément, que de faire, on va dire, du bien à la population. Parce que peut-être qu'ils partent d'un bon sentiment, par exemple, pour mettre les gens dans le sens, c'est qu'ils ne prennent pas leur voiture pour prendre le bus, les transports en commun. Mais alors d'aujourd'hui, par exemple, si on prend Paris, je pense pas que toute la périphérie est bien desservie pour aller au centre de Paris.
Non mais Marcelo, il y a des gens qui peuvent pas prendre le bus pour rentrer dans Paris. Il y a des gens qui habitent plus loin, il y a des gens qui habitent à la campagne, c'est pas desservi. 1200 euros par an.
C'est énorme.
Mais c'est colossal. C'est on n'est pas loin d'un SMIC. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on tape sur les revenus les plus modestes. Et je trouve ça inadmissible.
Et puis, dites-moi, je vais aller plus loin, mais vous n'avez pas l'impression que le péage, ce n'est pas un système qui a fait ses preuves en France, hein. Sur l'autoroute, c'est un système qui est énormément décrié. Si on met la même chose sur les accès aux villes, mais on va les tuer, nos cœurs de ville. On va les tuer. Vous en pensez quoi? Vous croyez qu'on peut faire vivre une ville sans voiture?
Certes, aussi. Après, le truc, c'est que les autoroutes, on va dire, c'est du privé. Donc après, on a quand même des bonnes autoroutes. Donc limite, payer, moi, ça me gêne pas trop. La ville, on paye quand même tous des taxes d'habitation, des impôts. Donc là, ça serait rajouter encore quelque chose.
Ouais, ça s'appelle le phénomène du mouton. C'est-à-dire, vous tondez.
C'est ça.
C'est la tonte.
C'est ça.
Jusqu'au moment où il n'y a plus rien à tondre.
C'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous conduisez un véhicule, qu'il soit le vôtre ou celui de vos entreprises, parce que c'est un véhicule de fonction. En conséquence de quoi, l'État part du postulat de base que vous êtes riche, donc on peut vous tondre à merci. Donc les radars automatiques, donc les entreprises privées, donc les vignettes critères, donc les radars privés, donc les péages, et là maintenant les péages de ville. Non, c'est n'importe quoi.
Est-ce que d'un point de vue de droit, Jean-Baptiste Yoska, est-ce que c'est clairement une atteinte à la liberté de circuler des automobilistes qu'on pourrait imaginer attaquer dans le cas où une ville aurait l'outrecuidance de mettre ce système hideux en place?
Alors c'est toujours la même chose, Pierre, vous le savez, parce que vous êtes aussi un peu juriste, et le fait d'attaquer un texte, ouais, voilà. Il faut avoir le texte pour pouvoir l'attaquer. Donc on va voir à quelle sauce ils vont nous la présenter, à quelle sauce ils vont essayer de nous la faire avaler. Et puis à ce moment-là, quand on aura le texte noir sur blanc sur une feuille de papier bien devant nous, ben on se fera un plaisir de décortiquer les points justement qui vont faire litige.
Alors je vous ai entendu sur les ondes vous exprimer, notamment parce que du côté du gouvernement, on a mis beaucoup en avant, et puis ça a été repris en cœur par beaucoup de journalistes, l'exemple de Milan. Mais dites-moi, le PA, ils n'ont pas eu de peau avec vous, parce que l'exemple de Milan, du péage urbain de Milan, vous le connaissez un petit peu.
Oui, mais l'exemple de Milan, c'est quand même assez hallucinant de mettre en exergue Milan pour nous faire avaler la pilule. Les Milanais ne sont pas complètement débiles, Pierre. Quand on leur a proposé le péage, ils ont dit non, on n'en veut pas, un point c'est tout. Et basta. Et il se trouve qu'ils ont fini par faire un autre péage à la sauce un peu milanaise. C'est-à-dire qu'on va en concertation et tout. Et puis, bien évidemment, pas du tout à la même somme. Et puis, à Milan surtout, ils ont mis en place des grands parkings à l'entrée justement de la ville. Et ils ont mis des infrastructures qui permettent justement de délester et que ça soit pas justement un embouteillage justement devant ce péage.
Oui, ça veut dire que derrière, ça a été accompagné potentiellement de mesures. Mais quand même, il y a quand même un vent en France, moi, qui me gêne un petit peu. On est devenu quand même le pays anti-automobile. On a l'impression qu'il faut être contre la voiture et prendre des mesures contre la voiture pour paraître vertueux.
Il y a un journaliste du Figaro que j'écoutais pour une chronique hier, je ne le nommerai pas, mais qui disait...
On n'est pas loin du coup là.
Non, mais qui disait un truc très intéressant, qui disait dans les années 70, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, l'automobiliste était un dieu. Il avait les cheveux au vent, dans toutes les pubs on le voyait comme un homme parfait, le citoyen parfait, responsable, intelligent, qui gagne bien sa vie. Et puis maintenant, il se trouve que dans les années 2010-2020, le citoyen qui conduit un véhicule, c'est une poule, c'est un mouton à traire, ça va être une vache à lait, c'est potentiellement un criminel, c'est potentiellement quelqu'un qui commet des infractions, c'est quelqu'un qui potentiellement va se retrouver avec le permis de conduire annulé et qui va être licencié. Donc on a changé complètement de façon de voir les choses et c'est malheureux.
Eh bien, je vous propose de faire une petite pause, une très courte pause, et restez bien avec nous, parce que j'ai retrouvé l'ami de Jean-Baptiste Yoska, celui qui était pour le péage urbain. Je l'ai retrouvé.
Enfin, il était pour à 9%. Hein.
Et on va en parler un petit peu avec lui, parce qu'il a peut-être des arguments à vous soumettre, et puis il fallait bien que j'en trouve un en France qui était favorable au péage urbain. On a cherché qui polluait tous les sondages sur Internet pour dire qu'il y était favorable. Il est avec nous, c'est une voix que vous connaissez bien si vous êtes à l'écoute de Sud Radio. Il a un humour désopilant et une intelligence incroyable. Il est avec nous dans quelques secondes et viendra nous exposer pourquoi. Et vous, venez lui répondre, vous qui êtes derrière le poste, 0826 300 300, dans Ça roule sur Sud Radio, 0826 300 300. Je vous veux en ligne pour dire non au péage urbain avec moi et avec les 40 millions d'automobilistes sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Ça roule.
Ça roule. Ça roule. Pierre Chasseret.
Ça roule sur Sud Radio, comme tous les samedis, entre 11h et 12h30, vous êtes avec nous. On essaye de passer un bon moment autour de mesures qui sont pourtant pas sympas. Et on va essayer d'en rire un petit peu de ce péage urbain qui pourrait venir. C'est une vraie menace, hein, même si Elisabeth Borne, la ministre des Transports, à mon avis, elle s'est pris les pieds dans le tapis. On a récemment fait une petite étude, comme ça, dans une émission sur Sud Radio, avec un sondage, vous participiez. On était à 91% opposés au péage urbain. Et j'ai retrouvé celui qui avait voté en faveur du péage urbain. Bonjour Philippe.
Bonjour Pierre, comment vas-tu ?
Voilà une voix que je reconnais qui me fait du bien. Philippe David, vous l'avez reconnu, l'animateur de Star de Sud Radio, l'une des stars de notre antenne, de 18h à 20h. Oh, on passe un bon moment avec vous, bon Philippe, toute la semaine, du lundi au vendredi, sur ce seul contre tous, et prenez la parole. Mais vraiment, Philippe David, j'ai voulu vous avoir en ligne parce que j'ai Maître Jean-Baptiste Yoska qui est à côté de moi, qui parlait de vous en entrée en disant qu'il parlait avec un journaliste qui était favorable au péage urbain. Donnez-moi un argument pour être favorable à ce péage urbain, Philippe. On en manque. Personne ne nous appelle pour dire qu'il est pour.
Eh bien, un argument, ben c'est qu'à Milan, ils ont fait un référendum et que c'est passé assez largement, de mémoire, suite à ma préparation d'émission, 71%, et qu'aujourd'hui, les Milanais voudraient plus s'en défaire. Et puis, vous savez, je vais vous prendre un argument, mon cher Pierre. Moi, voir des 4x4 dans les grandes villes, mais je me dis que c'est vraiment une aberration. Le 4x4, c'est pour les Alpes, c'est pour les Pyrénées, c'est pour le Massif central. Quand il y a des conditions météorologiques difficiles, mais excusez-moi, les 4 roues motrices pour aller entre le boulevard du Montparnasse et la ville humaine, ça sert à quoi, à part, vous me passez l'expression, mais à se la péter pour montrer qu'on a les moyens d'avoir une bagnole à 50 000 euros.
Et Philippe, le vélo, c'est que pour le Mont Ventoux aussi.
Le vélo, c'est que pour le Mont Ventoux.
Voilà.
Mais vous savez, Jean-Baptiste Yoska m'a dit l'autre soir que je pouvais demander la nationalité soviétique vu mon comportement envers les automobilistes. Je trouve que vous avez tous les deux, vous êtes adorables, mais un petit côté ayatollah de la bagnole.
Non, c'est incroyable, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Philippe, c'est celui qui aime la bagnole, qui roule tout le temps avec, mais qui veut être tout seul à rouler dedans.
Mais pourquoi ? Mais parce que Philippe, il habite à 100 mètres de la radio.
Ben voilà.
Donc il s'en fout.
D'ailleurs, mais c'est
tout. Il pense pas aux gens qui viennent travailler dans Paris et qui ne peuvent pas vivre dans Paris.
Et dans les autres grandes villes.
Et voilà.
Alors Philippe, je vais vous remercier. Mais du coup, vous avez débloqué le standard croule d'appels. Bon, pour dire que vous, qu'ils sont contre vous et que vous êtes un homme fou.
Non.
Mais on en a un.
Et oui.
On a trouvé l'ami de Philippe
David. Hassen qui est d'accord avec Philippe David. Bonjour Hassen.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Hassan, donc vous êtes le frère de Philippe David?
Non, pas du tout, mais je partage un peu son idée, mais pour mes idées à moi. Alors, moi, mon idée personnelle, je pense que bon, ça a ses avantages, parce que ça pourrait désengorger éventuellement les grands centres-villes, comme Paris, Toulouse, Marseille, enfin, toutes les grandes villes. Ça a son avantage. Par contre, je pense qu'il faudrait installer un périphérique, on va dire, un péage avec parking, c'est-à-dire que les gens viendraient se parquer à cet endroit-là, et puis de là partiraient en transport en commun ou en moi ici en campagne on a des petits bus de transport gratuits qui nous amènent à droite à gauche, et puis je sais pas, il y a encore l'avantage que ça ferait marcher peut-être un peu plus les gens, ça les enfin, je sais pas, ça c'est un bien voilà, aussi pour la pollution,
c'est bon pour la santé.
Voilà, exactement. Et puis, moi, j'y vois que des avantages. Bon, c'est sûr que c'est toujours pareil. Les gens voient que le côté financier, mais ils voient pas le côté pratique, le côté santé.
Ouais.
Le côté...
Bah attendez, 1200 euros voilà. Par an.
Il a les moyens,
ça. Je suis d'accord. J'ai pas non plus les moyens de payer 1200 euros, mais vous le voyez comme ça en un chiffre à l'année, mais 5 euros par jour, vous dites, ou je sais plus exactement combien c'était, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut pas le voir avec 1200 euros d'un coup sorti.
Ah bah ouais, mais ça fait la même chose. On peut vous le mettre par minute fumeur, aussi, hein.
Le fumeur, je m'excuse, mais le fumeur dépense 7 euros par jour pour fumer.
Ah bah moi, je fume
par
pas.
Par exemple, je sais pas. Le gros mangeur dépense 10 euros pour... Enfin, je ne sais voilà. pas, mais...
Le fumeur jusqu'à preuve du contraire, ou le gros mangeur, ce n'est pas un impôt. Là, on vous l'impose.
Oui,
alors
que
jusqu'à preuve du contraire, on a encore la possibilité, la liberté de tirer sur une clope ou pas. C'est un choix.
Alors, mais voilà, Philippe David, vous avez trouvé un ami, c'est Hassan.
Eh bien, c'est bien, mais vous savez, je vais vous dire... Je suis sûr que si on avait le temps de faire un débat, l'autre jour j'ai perdu à 91% sous là.
Ah ouais.
C'est moi qui gagnerai à 91%.
Alors vous savez, vous avez fait des recherches, Philippe, et moi aussi j'ai fait une recherche pour. Mais il fallait bien que je vous rende la monnaie de votre pièce après ce que vous m'avez fait quand même. Eh bien, du coup, maintenant, je vais vous dire, Philippe, j'ai cherché dans le dictionnaire ce qui s'était passé le jour où on a fait notre débat pour ou contre le péage urbain. Je l'ai trouvé. C'était que ça commençait par la lettre F. Ça s'appelle une fessée. Voilà ce qui s'est passé, mon cher Philippe.
Merci d'évoquer vos fantasme en direct à la radio.
Ici, vous êtes dans Ça roule sur Sud Radio et monsieur Philippe David, vous êtes seul contre tous. Voilà.
Merci à tous, bon week-end.
Bon week-end, Philippe.
Hassan, j'ai entendu, hein, Hassan est parti, mais j'ai entendu ce que nous disait Hassan. Il faut favoriser la marche, etc. Mais dites-moi, Jean-Baptiste Yosca, Maître Yosca, il n'y a que ces moyens, selon vous, pour pousser les Français à faire du sport, c'est les priver de leur voiture. Parce que sinon, moi, j'ai une bonne mesure. On interdit les bagnoles et on n'en parle plus.
Non, mais vous rigolez qu'à moitié, hein. Dans le centre de Paris, les voitures seront bientôt interdites complètement, puisque notre chère maire veut absolument faire de Paris une ville. Le musée, vous voyez bien toutes les restrictions qui arrivent au fur et à mesure. Donc, d'une façon générale, on va arriver à ce niveau-là. Et puis, pour demander aux Français de faire plus de sport en mettant un péage, non mais de qui on se moque-t-on ? Il faut quand même. Non, mais moi, je veux bien. Je veux bien qu'on parle de tout. Mais arrive un moment où il faut arrêter d'être disgracieux et dire n'importe quoi. Il faut quand même être sérieux. Non, moi, je me suis levé ce matin, mais si c'est pour dire n'importe quoi, c'est pas la peine. Je suis en train de me coucher. Non, mais vous voyez bien que la mesure proposée par le gouvernement est illusoire. Alors, c'est drôle parce que. En fait, c'est une mesure qui est contredite par Hidalgo. C'est une mesure qui est contredite par Pécresse. Mmh. Donc les deux têtes, les deux bicéphales de la politique Île-de-France en veulent pas. Et puis en fait, c'est un ministre qui l'a remis au goût du jour.
Ouais, on va le décrypter. On va essayer de comprendre pourquoi Elisabeth Borne. Il faut qu'elle entretienne les routes parce que le réseau se dégrade. Il y a pas un rond. En tout cas, il y a pas un rond d'affecté à l'entretien des routes. Donc
on crée un impôt.
Alors un petit impôt.
Bah ouais. Un impôt supplémentaire. Et puis, un impôt, vous voyez à quel point c'est pernicieux. 5 euros par jour, ça vous donne l'impression, comme Hassan l'a dit très justement, parce que Hassan était de bonne foi tout à l'heure. Mmh. Il dit, oh ben c'est pas grand-chose, ça va pas représenter grand-chose, 5 euros par jour. Mais 5 euros, ça représente beaucoup d'argent, ça représente un SMIC au bout de l'année. Vous êtes deux, parce que vous êtes un couple qui bossait dans Paris, vous êtes deux à venir, ça représente 2 SMIC.
C'est-à-dire que... Il y a le stationnement derrière, il va falloir payer aussi.
Ah ben après le stationnement à 50 euros, après les licences qui deviennent de plus en plus chères, enfin vous voyez, c'est une hémorragie.
Et pourquoi on ne prend pas l'argent des radars pour les routes alors, Pierre ?
C'est une très bonne question, mon cher Gaspard, parce que derrière, le délégué interministériel nous disait que l'argent des radars était affecté à la sécurité des routes. Eh bien, nous, on a creusé, on a un dossier en ligne sur le site internet 40millionsdautomobilistes.com, très sérieux, on a épluché les textes de loi, on n'a pas fait ça tout seul, on l'a fait avec des parlementaires. Eh bien, on s'aperçoit, je vous laisse regarder, où va l'argent de la répression routière? On l'a fait. 1,6 milliard et vous allez vous régaler. S'il y a 25% qui part à la sécurité, c'est déjà pas mal, c'est déjà beau. Le reste, eh bien, ça va dans la cagnotte, on désendette un petit peu l'État. Et puis, merci les moutons d'avoir été tondus. C'est vrai que quand on supprime la taxe d'habitation, on va trouver un peu d'argent. Alors, on a trouvé l'argent, on va faire payer nos amis automobilistes. C'est souvent comme ça que ça se passe, mon cher Gaspard. C'est pour ça que vous n'avez pas de voiture, ça vous fait peur?
Exactement.
Vous avez peur des taxes?
Ah oui.
Non, mais
alors ça me donne
pas du tout envie. Entre le coût du permis, toutes les taxes qui arrivent, les amendes, les stationnements, je préfère prendre le métro, c'est moins cher.
C'est vrai que toutes les semaines, on fait ça roule.
375 euros par an.
Ça va faire 3 ans qu'on fait ça roule toutes les semaines avec mon ami Gaspard. Et ça fait 3 ans avec Laurence et Gaspard que toutes les semaines, on se pose pas de questions pour les sujets de l'émission.
Avec le physique qu'il a, il peut prendre le métro pour ramener, pour draguer et tout. Ça pose pas le problème. Mais pour ceux qui n'ont pas le physique, pour ceux qui n'ont pas le physique de Gaspard, il faut bien avoir une voiture pour aller chercher Mademoiselle et la raccompagner.
Ah ben moi, pas de voiture, célibat. Hein.
Voilà.
Vous savez ce qui m'a sauvé la vie. Hein. Si j'ai réussi à avoir 2 enfants, c'est parce qu'un jour j'ai eu une voiture. Sinon, je serais encore en train de marcher sur le long des avenues pour essayer de trouver quelqu'un. La voiture m'a sauvé ma vie.
450 euros par an, pardon. Je me suis trompé, pour le Pass Navigo.
Pour le Pass Navigo, oui. Alors l'entretien de la voiture coûte en effet un petit peu plus cher, même si c'est biaisé, parce que si vous prenez une vieille voiture.
Enfin, si c'est remboursé par l'entreprise, hein, sinon c'est 900 euros par an.
Ah oui, parce que vous comptez aussi là-dessus.
Il y a une table dans toutes les directions, Gaspard. Il est comme ça, rien ne lui échappe.
Vous étiez sur Ça roule et on va maintenant terminer l'émission comme chaque semaine avec ce point sur les prix, sur les carburants, mon cher Gaspard.
Sud Radio.
Ça roule.
La minute qui carbure.
Bonne nouvelle, si vous roulez au samplon 98, le litre perd 1,8 centimes, soit un prix à la pompe d'€1,51. A contrario, si vous mettez du 95, vous payerez votre litre 1,48€ avec une augmentation de 1,2 centimes. Si vous utilisez du bioéthanol, c'est carrément l'hémorragie. Augmentation de 10,2 centimes, soit 81 centimes le litre. On respire un peu. Du côté des dieselistes, baisse de 0,2 centimes, soit 1,41€.
Et le bioéthanol, on en parle la semaine prochaine, c'est une vraie question. Les boîtiers viennent d'être autorisés et donc vous pouvez équiper votre voiture au bioéthanol. Mais on voit les prix, c'est l'hémorragie sur les prix du carburant bioéthanol. On en parle la semaine prochaine, c'est une vraie question. On en parle. Merci d'avoir été avec nous dans Ça roule sur Sud Radio. C'était votre rendez-vous et on sera de retour aux côtés de Laurence Perrault la semaine prochaine. Tout de suite à suivre, on dit merci aussi à Maître Jean-Baptiste Yoska qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, avocat droit routier. Bon week-end à tous.
Sud Radio.
Ça roule.